Bonjour à toutes et à tous, au micro Mouhamadou Oumfa pour vous présenter Le Monde Aujourd'hui, édition du jeudi 18 juillet 2024. Il est 7h, temps universel, voici le sommaire.
I officially accept your nomination to be Vice President of the United States of America.
J'accepte officiellement votre désignation pour être le vice-président des États-Unis d'Amérique. J.D. Vance, le colistier de Donald Trump, est entré en scène au troisième jour de la convention du Parti républicain à Milwaukee. Le sénateur de l'Ohio a invité l'Amérique à choisir une nouvelle voie en votant pour Donald Trump à la présidentielle du 5 novembre 2024. Le président Joe Biden évoque l'idée de renoncer à sa candidature si on lui diagnostique un problème médical, tout en assurant se porter bien après avoir été testé positif au Covid-19. Au moins 5 civils tués dans une nouvelle attaque du groupe rebelle ADF dans l'est de la RDC. Le président kényan William Ruto nomme un secrétaire du cabinet par intérim une semaine après avoir limogé la quasi-totalité de son gouvernement. Dans une dizaine de minutes, les nouvelles économiques avec Nani Talani et les sports présentés par Yakuba Ouedraogo. Mais pour commencer, voici le journal. Commençons par l'actualité américaine. Hier soir, au troisième jour de la convention du Parti républicain à Milwaukee, dans le Wisconsin, le sénateur J.D. Vance de l'Ohio a accepté officiellement l'investiture du parti pour devenir le vice-président des États-Unis en cas de victoire du parti en novembre prochain. Dans son discours prononcé en prime time, le jeune politicien est revenu sur ses origines et son parcours difficile. Il a aussi décliné les grandes lignes de sa vision des États-Unis. Le point avec notre envoyé spécial, Dilly Dico.
Introduit par son épouse Usha Vance, une avocate d'origine indienne, le sénateur J.D. Vance a dans son discours de près d'une heure raconté son histoire et fait le lien entre son enfance modeste et les difficultés des Américains face à la cherté de la vie. Tout comme Eric Trump, le fils du candidat républicain, J.D. Vance a mis en avant les raisons pour lesquelles il estime que Donald Trump est le meilleur choix pour l'Amérique. Il a touché à des sujets phares de la politique étrangère des États-Unis en parlant des relations avec la Chine et de la volonté des républicains de mettre en avant le « Made in America ». Le colistier de Donald Trump n'a pas hésité à décrier certaines politiques de Joe Biden en affirmant que celles-ci ont mis certaines communautés des États-Unis à mal. J.D. Vance a également fait preuve d'humour lorsqu'il a parlé de sa grand-mère qu'il a élevée et salué le courage de sa mère qui a vaincu son addiction à la drogue il y a 10 ans. Enfin, le sénateur Vance a parlé du renouveau du Parti républicain et d'une nouvelle page qui s'ouvre pour les 4 prochaines années si Donald Trump accède à la Maison-Blanche. Ce jeudi, ce sera au tour de Donald Trump d'accepter sa nomination en tant que candidat républicain à la présidentielle du 5 novembre. Dilly Dico, VOA Afrique, Milwaukee.
Pendant ce temps, dans le camp démocrate, les appels pour inciter le président Joe Biden à retirer sa candidature à la présidentielle se multiplient. Hier, l'influent représentant de la Californie, Adam Schiff, candidat au Sénat, en a fait publiquement la demande dans un communiqué. Nathalie Barge.
Dans un communiqué cité par le Los Angeles Times, Adam Schiff dit que le choix de se retirer de la campagne appartient à M. Biden, mais l'élu pense qu'il est temps pour le président de passer le flambeau. Estimant qu'une deuxième présidence Trump saperait les fondements de la démocratie américaine, il dit toutefois avoir de sérieuses inquiétudes quant à la capacité du président Biden à le vaincre en novembre. Joe Biden a été l'un des présidents les plus importants de l'histoire de notre pays et les services qu'il a rendus tout au long de sa vie en tant que sénateur, vice-président et aujourd'hui président ont fait que notre pays est devenu meilleur, a-t-il estimé. Monsieur Schiff est l'élu démocrate le plus haut placé à faire publiquement cette demande après le débat du 27 juin de Joe Biden avec Donald Trump qui a suscité des interrogations sur l'état de santé du président. Les appels au président à abandonner avaient été mis en sourdine après la tentative d'assassinat contre son rival républicain samedi. Résistant aux pressions, M. Biden a assuré qu'il allait bien et qu'il ferait un second mandat à la tête des États-Unis.
Assailli de questions sur son acuité mentale, Joe Biden, 81 ans, a affirmé qu'il réévaluerait sa candidature si on lui diagnostiquait un problème médical. Interrogé par le média BET sur ce qui pourrait le faire réfléchir à jeter l'éponge, le président candidat a répondu « Si j'avais un problème médical qui apparaissait, si quelqu'un, des médecins, venait me voir et me disait « Vous avez tel problème », c'est la première fois que M. Biden en trouve la porte à l'idée d'abandonner sa campagne. Par ailleurs, hier soir, le président Biden a dit se sentir bien après avoir été testé positif au COVID-19 lors de son déplacement de campagne dans le Nevada. Le procureur spécial Jack Smith a fait appel mercredi de la décision d'une juge fédérale d'annuler les poursuites engagées en Floride contre l'ex-président américain Donald Trump pour rétention de documents classifiés après son départ de la Maison-Blanche. L'appel a été déposé mercredi à Atlanta. Lundi, M. Trump a arraché une nouvelle victoire judiciaire quand la juge Eileen Cannon a annulé les poursuites contre lui en Floride, considérant la nomination du procureur spécial Jack Smith qui instruit le dossier comme illégal.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Dans l'est de la RDC, au moins 5 civils ont été tués hier dans une nouvelle attaque attribuée aux ADF, une rébellion affiliée au groupe État islamique. Le point avec Lionel Gaïma.
5 personnes ont été décapitées selon un habitant de Mamov dans le territoire de Beni, province du Nord Kivu. Les ADF nous ont encore une fois endeuillés. Ils ont tué 5 motards qui partaient au marché, a confirmé Léo Siviwe, chef de secteur de Beni Mbao, entité administrative dans laquelle se trouve Mamov. Les ADF ont tué 7 personnes dans le village de Kazahoro, où ils ont aussi incendié 2 motos et les maisons, a de son côté déclaré Kinos Katuo, président de la société civile de Mamov. Les ADF, à l'origine des rebelles ougandais, majoritairement musulmans, ont prêté allégeance en 2019 au groupe État islamique. En juin, les tueries qui leur sont attribuées ont fait quelques 150 morts. Les armées de RDC et d'Ouganda mènent depuis 2021 des opérations conjointes contre les rebelles ADF dans le nord du Nord Kivu et le sud de la province voisine de l'Ituri sans parvenir à stopper leurs exactions.
Le président kényan William Ruto a nommé hier, mercredi, son ministre des Affaires étrangères au poste de secrétaire du cabinet par intérim, presque une semaine après avoir limogé la quasi-totalité de son gouvernement. Les précisions avec Claire Morin-Gibourg.
Musalia Mudavadi est nommé secrétaire du cabinet par intérim pour tous les portefeuilles ministériels vacants. Le ministre des Affaires étrangères a survécu la purge gouvernementale du 11 juillet comme le vice-président Rigathi Gachagua. Après l'annonce des limogeages, M. Ruto avait dit vouloir engager de vastes consultations dans le but de définir un gouvernement à base élargie. La principale coalition d'opposition, Azimio, a affirmé mercredi soir qu'elle refusait de prendre part à ce gouvernement. Pour l'opposition, une convention constitutionnelle nationale menée par le peuple est un chemin possible vers la résolution de la crise nationale. Mardi, de nouveaux rassemblements ont eu lieu à travers le pays avec des affrontements sporadiques avec la police. Les manifestations de jeunes Kényans ont tourné à l'émeute le 25 juin lorsque des manifestants ont pénétré dans l'enceinte du bâtiment. La police avait alors tiré à balles réelles, faisant près de 50 morts.
La police kényane a annoncé qu'aucune manifestation ne serait autorisée dans le centre de la capitale Nairobi à la suite des manifestations anti-gouvernementales meurtrières. Aucune manifestation ne sera autorisée dans le quartier central des affaires de Nairobi et ses environs jusqu'à nouvel ordre afin de garantir la sécurité, a déclaré Douglas Kanja, chef par intérim de la police nationale, dans un communiqué publié mercredi. Le communiqué précise que la décision a été prise après que la police a reçu des informations crédibles selon lesquels des groupes criminels organisés prévoient de tirer profit des manifestations en cours. Une importante délégation turque était en visite mercredi au Niger pour renforcer la coopération militaire avec le régime arrivé au pouvoir par un putsch il y a près d'un an. Cette délégation était menée par Hakan Fidan, ministre des Affaires étrangères, accompagné des ministres de la Défense, de l'Énergie et du chef des renseignements. Ils ont été reçus par le président de la transition, le général Abdurrahman Tiani. Nous avons discuté avec le Niger de ce qui peut être fait pour améliorer l'industrie de la défense et le renseignement dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, principale source d'instabilité au Sahel, a déclaré M. Fidan à la presse à Niamey. Sept civils ont été tués cette semaine par des terroristes dans un village de la région de Tillabéri, dans l'ouest du Niger, près du Burkina Faso, a annoncé l'armée mercredi soir. Des terroristes à moto ont attaqué le village de Dossou-Kouregou et tué sept civils, volé du bétail, a indiqué l'armée dans son dernier bulletin des opérations. L'armée assure que les opérations sont en cours pour traquer et neutraliser les auteurs. La région de Tillabéri, située dans la zone dite des trois frontières entre le Niger, le Mali et le Burkina Faso, est devenu un repère pour les djihadistes sahéliens affiliés au groupe État islamique. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. À présent, les dernières nouvelles économiques en Afrique et ailleurs. La Minute Éco, c'est avec Nani Talani.
Au Ghana, les autorités qui vendent souvent tout le cacao du pays avant la récolte souhaitent retarder la livraison de 350 000 tonnes cette saison, soit près de la moitié des fèves de cacao, en raison de la récolte dévastée du Ghana, ont déclaré des sources à Reuters. Les négociants signent généralement des accords pour acheter du cacao, comme toute autre marchandise, des mois à l'avance, dans l'espoir de les revendre plus tard avec un bénéfice. L'Égypte promet de mettre fin aux coupures d'électricité pendant l'été à partir de dimanche, suivant l'arrivée de cargaisons de gaz naturel grâce auxquelles l'Égypte produit la majeure partie de son électricité. Le ministère du pétrole affirme avoir reçu 5 cargaisons contenant 155 000 mètres cubes de gaz naturel liquéfié sur les 21 cargaisons commandées. La livraison doit mettre fin à une crise qui a incommodé 106 millions d'habitants. Pour terminer, le président du Nigeria, Bola Tinubu Ahmed, demande au Sénat un financement supplémentaire de 6,2 milliards de naira pour combler les lacunes du budget 2023-2024, selon une lettre lue aux législateurs mercredi. Cette demande intervient à un moment où le gouvernement subit la pression des syndicats pour convenir d'un nouveau salaire minimum.
Et maintenant, l'actualité sportive, c'est avec Yacouba Ouedraogo. Salut Yacouba.
Bonjour Mohamedou, bonjour à tous.
Pierre-Éric Aubameyang annonce son départ de Marseille.
Oui, l'attaquant international gabonais de 35 ans a annoncé sur Instagram son départ du club phocéen. « Il est temps pour moi de démarrer un nouveau chapitre », a indiqué Pierre-Emerick Aubameyang dans son message, remerciant le propriétaire du club olympien Franck Macotte et son président Pablo Longoria d'avoir accepté son départ. Il n'a pas donné de précision sur sa nouvelle destination, même si les rumeurs l'envoient au club saoudien d'Al-Qadsia. Aubameyang était arrivé libre à Marseille à l'été 2023 en provenance de Chelsea. Malgré une saison décevante de l'OM avec une 8e place en championnat et de multiples changements d'entraîneur, l'attaquant gabonais a surnagé avec 30 buts, 11 passes décisives, toutes compétitions confondues.
Toujours sur le marché des transferts, Luka Modric prolonge au Real de Madrid jusqu'en juin 2025.
Le vétéran du Real Madrid et légende de la sélection croate va rester une saison de plus dans la capitale espagnole après avoir prolongé son contrat jusqu'en juin 2025. Selon l'annonce faite par le club madrilène, Luka Modric avait déjà prolongé d'un an son contrat l'an dernier, malgré le fort intérêt montré par l'Arabie saoudite qui cherchait à le recruter. L'international croate, qui aura bientôt 39 ans, a été poussé l'an dernier sur le banc madrilène en raison de l'arrivée du milieu de terrain anglais Jude Bellingham. Avec le Real, il a remporté 6 Ligues des Champions, 4 Ligas et 2 Coupes du Roi. Le Ballon d'Or 2018, arrivé en provenance de Tottenham en 2012, est le joueur qui possède le plus grand nombre de titres dans l'histoire de notre club, avec lequel il a disputé 534 matchs, rappelle le Real Madrid.
8 mois de prison pour des insultes racistes visant Vinicius et Rudiger.
Le condamné, sous couvert de plusieurs pseudonymes, avait lancé des attaques et des insultes racistes visant Vinicius Junior et Antonio Rudiger, deux joueurs du Real Madrid, sur le forum numérique du quotidien Marca, écrit le club madrilène dans un communiqué. Le juge lui a infligé une peine de 8 mois de prison ainsi qu'une interdiction de participer à ce forum pendant 20 mois. Poursuit encore le Real, qui précise que cet homme n'ira pas en prison à condition qu'il suive un programme sur l'égalité et la lutte contre les discriminations. Le 10 juin, trois supporters de Valence avaient été condamnés à 8 mois de prison pour avoir proféré dans le stade de leur club, en mai 2023, des insultes racistes visant déjà l'attaquant brésilien du Real Madrid, Vinicius Junior, qui avait provoqué une vague d'indignation internationale.
Merci, Yacouba.
Le Monde, aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Mohamedou Oumfa, toujours avec vous. Maintenant, la partie magazine. En Guinée, les avocats ont débuté mardi une grève de 2 semaines pour protester contre ce qu'ils qualifient d'arrestation arbitraire suite à l'interpellation de 2 leaders de la société civile le 9 juillet. Nathalie Barge a joué à Conakry, maître Alimatou Camara, membre du collectif des avocats grévistes.
Nous avons décidé d'engager ce mouvement de boycott au niveau de toutes les juridictions nationales pour engager une protestation à la suite des arrestations arbitraires de Monsieur Oumar Silla alias Fonike Mangue et de Monsieur Mamadou Biloba. Le barreau de Guinée est une institution qui reste regardante des autres institutions du pays, surtout en matière de défense des droits humains. Le fait d'interpeller de façon violente des citoyens guinéens sans leur adresser des plaintes au préalable, le fait que ce soit des personnes qui représentent aujourd'hui des voix discordantes, font que nous sommes convaincus que ce type de pratiques sont des pratiques qui violent le droit d'être interpellé dans un cadre légal, le droit d'être incarcéré, détenu ou retenu dans un cadre légal selon les textes prévus par notre code de procédure pénale.
Votre collectif d'avocats a-t-il des nouvelles de ses clients ?
Le boycott se justifie d'ailleurs par le fait que nous n'ayons aucune nouvelle de nos clients et que nous n'ayons aucun interlocuteur parce que le barreau a fait une déclaration en date du 11 juillet où nous avons exprimé notre forte préoccupation sur ces manières d'interpeller des citoyens et sur le fait qu'aujourd'hui, ni les avocats membres du collectif, ni les membres de la famille de M. Oumar Silla alias Fonike Mangue et de M. Mamadou Biloba ne sont au courant de leur lieu de détention ou lieu de séquestration. Donc ce boycott se justifie par exactement le fait que nous n'ayons aucune nouvelle des clients et que nous n'ayons eu aucun interlocuteur avec les autorités judiciaires pour que la lumière soit faite sur les conditions de leur séquestration. Il y a environ moins d'un mois, l'ancien numéro 2 du CNRD, on l'a jugé ici devant un tribunal militaire et après, les informations ont été données selon lesquelles il était mort d'un stress post-traumatique. Ses avocats et même les membres de sa famille ne croient pas en cette thèse-là. Donc nous sommes vraiment dans un climat assez tendu pour pouvoir nous inquiéter sur le sort éventuel de M. Fonike Mangue et de M. Mamadou Biloba.
Que demandez-vous au gouvernement ?
Nous demandons aux autorités de respecter les règles relatives à l'interpellation des citoyens. Les citoyens peuvent être interpellés par le biais de convocations. On n'a pas besoin que ce soit des gendarmes accompagnés de militaires des forces spéciales pour aller interpeller des citoyens. C'est une violation du droit d'être arrêté conformément à la loi, d'être présenté à un procureur ou à un juge et même le droit d'être jugé parce qu'aujourd'hui, ça fait près de 8 jours qu'ils sont détenus au secret. Sur le plan procédural, au bout de 48 heures, aucun individu ou aucun citoyen ne peut être détenu sans être déféré devant un procureur de la République qui décidera à ce moment-là si c'est lui qui place en détention ou s'il renvoie la procédure ou le dossier de la procédure devant un juge d'instruction. Donc nous nous indignons de ça et nous estimons que les autorités actuelles ne sont pas au-dessus des lois et le respect de ces formes prévues par la loi sont des règles générales et impersonnelles. Tous les citoyens devrait bénéficier de cette protection.
Maître Alimatou Camara, avocate au barreau de Guinée. Au Burkina Faso, précisément à Waigouya, dans le Nord, l'Association des Jeunes Unis pour le Développement du Loroum lutte pour la prise en charge des personnes déplacées internes à travers des activités socioculturelles, sportives et autres appuis à la création d'activités génératrices de revenus. L'association tente de soulager des centaines de personnes qui ont dû partir de chez elles du fait du terrorisme. Reportage de Gilles Dasda.
sur scène la troupe de danse des jeunes de la province du Lorum dans la région du Nord au Burkina. Une troupe constituée uniquement de déplacés internes basée désormais à Ouaibouya, à 180 km de Ouagadougou. Lors de cette compétition régionale de danse, les déplacés venus du Lorum avaient atteint les quarts de finale il y a 2 ans. Un exploit qu'ils espèrent renouveler cette année, à en croire Abdallah Traoré, déplacé interne qui coordonne la troupe de danse.
On pense que cette année, bon, on va encore essayer de faire quelque chose. Je pense que le lancement même s'est suivi le samedi. Pour lancer un appel aussi, ceux qui peuvent nous tendre la main, nous aussi on ne va pas se laisser. C'est vrai que la crise sécuritaire ne nous permet pas de faire certaines choses, mais nous voulons forcer aussi d'en y faire pour ne pas mettre les enfants dans la tristesse. Voilà. Les amener aussi à sortir un peu de l'air.
Bénéficiaire, Abdallah est aussi membre de l'Association des Jeunes Unis pour le Développement du Lorum, AJDL, qui est une association qui contribue à la prise en charge des PDI venus de cette partie du Burkina. Avec son président Amidou Yabaou, cette association lutte pour le bien-être des déplacés à travers notamment des activités socioculturelles et sportives. Mais sa mission ne s'arrête pas là.
Nous avons vu au niveau des sites de déplacement qu'il y avait des petits conflits. Parce qu'au niveau des sites, les communautés sont mélangées et les autres sont venus de différents villages. Et nous avons échangé les petits conflits et à travers nos sensibilisations, il y a eu un changement. Et beaucoup de personnes nous sollicitent même et nous félicitent.
À l'origine, l'association avait été créée dans la commune de Tutao pour aider à son développement. Mais le terrorisme a contraint des populations à quitter la localité. Bien que désormais basée à Ouaibouya, Yabaou et les siens se battent pour soutenir d'autres PDI comme Amsetou Wermi, qui est ici depuis 3 ans.
L'association nous aide. Grâce à elle, nous arrivons à faire de petits commerces. Si quelqu'un t'aide, il faut que tu saches aussi te débrouiller pour aller de l'avant. Nous tirons de gros avantages de leur aide sans nous profiter.
En plus de sa co-épouse, Amsetou et les siens sont une quinzaine qui bénéficient de l'appui de l'association. Comme eux, plusieurs centaines d'élèves déplacés basés dans ce lycée profitent aussi de cette aide. Comme particularité, la JDL aide aussi à la mobilisation des vivres et d'autres biens et matériels qui sont convoyés à Titao, leur localité d'origine, pour le bonheur des populations restées sur place. Bien que loin de chez eux, Yabaou et son association continuent avec les moyens du bord de lutter pour amoindrir au maximum les effets de la crise sécuritaire sur les populations.
Nous chantons chez nous et c'est la résilience qui dicte tout ça.
En attendant des jours meilleurs, Amidou Yabaou appelle à plus de soutien pour permettre à chaque déplacé interne de vivre décemment et s'occuper sainement afin de garder le moral haut. Gildas Da, Ouagadougou.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou sur le 102.4 FM.
La mobilité routière se renforce de plus en plus en Côte d'Ivoire. Des bus de transit rapide vont être construits à Abidjan pour fluidifier la circulation. Un projet qui devrait faciliter le déplacement des milliers de personnes par jour dans la capitale économique ivoirienne. Reportage de notre correspondant à Abidjan, Ange Nomenyo.
Serge Alain Betty est chauffeur de taxi à Benjarville, une des communes d'Abidjan où les embouteillages sont légion. L'arrivée du BRT dans la capitale économique ivoirienne est une aubaine pour Betty et ses collègues du transport en commun.
Nous avons accueilli le lancement du BRT avec joie et ferveur, avec beaucoup vraiment de reconnaissance vis-à-vis de ceux qui ont développé ce projet-là. Parce que ils ont vu la souffrance de nos parents qui, chaque jour, pour aller à Yopougon, à Djamé, vraiment lutte. Vraiment, merci à ces personnes-là.
Grâce au bus rapide de transit, plus de 500 000 passagers vont rallier par jour les communes de Benjarville et de Yopougon en moins de 45 minutes. Une opportunité pour les usagers de la route qui souffrent énormément du phénomène d'embouteillage.
Le BRT dont nous lançons aujourd'hui les travaux comporte 2 principales sections décrites comme suite. La section 1, Yopougon à Djamé, empruntant l'axe du 4e pont qui vient d'être achevé. La section 2, à Djamé, Cocody, Benjerville, empruntant principalement le boulevard Mitterrand. Ses principales caractéristiques sont les suivantes. Un système fermé de 20 km de couloirs de BRT sur voie réservée avec un réseau de rabattement qui entraînera un gain de temps appréciable.
Le lancement du BRT a eu lieu la semaine dernière dans la commune de Benjerville. Beaucoup de personnes ont loué l'initiative du gouvernement ivoirien. Mais pour de nombreux experts, des défis restent à relever.
Pour ceux qui vont continuer à rouler en voiture, c'est pas sûr que ce soit immédiatement un véhicule, un moyen de réduire l'embouteillage. Du coup, ça va réduire l'espace pour circuler les véhicules. Donc, ça peut bouchonner un peu.
Le BRT, long de 20 km, disposera de plus de 100 bus modernes, d'une capacité de 150 passagers chacun, avec un plancher à hauteur du quai. Lancé en 2020, sa construction prendra fin en 2027. Ange Bijoulamayon pour VOA Afrique, Abidjan.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum cette semaine. Coup de projecteur sur la tentative d'assassinat samedi dernier de l'ancien président américain et candidat républicain Donald Trump, deux jours avant l'ouverture de la convention de son parti et à moins de quatre mois de la présidentielle. L'actuel chef de l'exécutif, le démocrate Joe Biden, lui aussi engagé dans la course à la Maison Blanche, a appelé au calme et à l'unité dans une Amérique de plus en plus polarisée. Cet attentat raté aura-t-il un impact sur le scrutin de novembre? Laissez vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique. Rendez-vous ce jeudi à 19h30.
Le Soudan fait face aux coupures d'électricité intempestives qui s'éternisent et aux températures étouffantes. Face à ces conditions extrêmes, les habitants de Port-Soudan n'ont d'autre choix que de chercher refuge à la plage, le seul endroit où ils peuvent trouver un peu de fraîcheur. Nani Talani nous en dit plus.
Sous un soleil de plomb, les habitants de Port-Soudan, ville côtière du Soudan, subissent de plein fouet une canicule intense avec des pannes d'électricité qui durent entre 14 ou 15 heures par jour. Les températures montent en flèche tôt le matin, atteignant des niveaux inhabituels pour la région.
Lorsque nous étions à Khartoum, la température commençait à monter à partir de 10 ou 11 heures du matin, mais maintenant, à Port-Soudan, elle monte à partir de 7 heures du matin, ce qui est inhabituel. C'est la première fois que nous vivons dans ce climat.
La chaleur affecte tous les aspects de la vie quotidienne. Le travail, la santé, le moral.
Les températures affectent la production, la santé publique et la circulation des citoyens pendant la journée, ce qui oblige l'État à mettre la question du changement climatique à l'ordre du jour.
Les habitants de Port-Soudan sont obligés de se réfugier à la plage ou sous les arbres pour chercher un peu de fraîcheur.
La température affecte les performances sur le marché et me stresse. Avec les coupures d'électricité qui durent parfois plus de 10 ou 14 heures par jour, nous sommes obligés de nous asseoir sous les arbres dans la rue ou d'aller à la plage.
Le gouvernement soudanais est exhorté à prendre des mesures d'urgence pour protéger la population et l'environnement. Les autorités sanitaires s'inquiètent des risques croissants pour la santé.
À votre avis, une émission interactive sur VOA Afrique. Du lundi au vendredi, micro ouvert sur l'actualité brûlante, les sujets sociaux et culturels. Enregistrez vos réactions sur WhatsApp +1 202 297 60 89. Participez en nous contactant sur notre page Facebook ou appelez-nous en direct à partir de 18h05, temps universel, au +1 202 205 26 33. À votre avis, la parole est à vous, tous les jours, sur VOA Afrique.
Et c'est ici que s'achève cette édition du Monde aujourd'hui. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production qui a permis la réalisation de ce journal. Au micro, Mouamadou Oumfa, ainsi va le Monde aujourd'hui. Pour plus d'informations, 24 heures sur 24, un seul site internet, voaafrique.com, sans oublier nos différentes plateformes digitales, Facebook, YouTube et X, anciennement Twitter. Merci de rester à l'écoute des programmes de VOA Afrique. À très bientôt. Thank you.
écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bangui sur 101.7 FM. Clédou FM, Bamako. Golf FM, Cotonou. Alfaïda FM, Kaolack, Sénégal. Et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.